BFM Business, tout pour investir, Stéphane Pedrazzi.
Au sommaire de ce mercredi 22 mars, l'éducation financière des enfants et des adolescents. Comment leur apprendre les grands principes et les bons réflexes? Comment parler et gérer l'argent de poche? À partir de quel âge? Quelles sont les règles et les erreurs à éviter? La fondatrice de PeakSpace sera notre coach du jour. Elle sera en plateau avec nous tout à l'heure à 10h45. La loi Lemoine a-t-elle tenu toutes ses promesses? Votée il y a 2 ans, elle permet de changer d'assurance emprunteur à n'importe quel moment. L'objectif était de faire baisser les prix en favorisant la concurrence. Est-ce réellement le cas? On en parlera dans la place de l'IMO à 11h15 avec le courtier Jérôme Robin. Et puis, comment investir lorsqu'on a plus de 50 ans? On est considéré comme senior. Les stratégies, les horizons d'investissement deviennent forcément différents. Il est plus difficile d'obtenir un crédit immobilier. Marie-Christine Sonquin, rédactrice en chef patrimoine au journal Les Échos, nous apportera son expertise à partir de 11h30. Voilà pour le sommaire. Ravi d'être avec vous tout de suite. Le point sur les marchés avec Antoine Larigauderie. Bonjour Antoine, ravi de vous retrouver. Ça ne s'améliore pas vraiment du côté des marchés. On reste dans le rouge et on n'a pas vraiment de moindre signe de rebond.
Pas du tout. Hein. On reste avec quand même le sentiment que ça commence à tenir, hein, les supports sous les 8100 points. Mais enfin, il faut quand même aller les chercher. Et on est encore en baisse de 0,44% à 8105 points. Du côté de l'Eurostock 50, on recule de 0,2% et moins 0,23% pour le DAX à Francfort. Légère surperformance des valeurs de croissance. Hein. L'Euronext Tech Leader, c'est d'ailleurs dans le vert légèrement, plus 0,08%, mais avec un paysage extrêmement contrasté. On a un marché qui, malgré des dynamiques qui restent quand même favorables, est vraiment sous pression du marché obligataire, parce qu'on voit que les taux restent quand même très tendus, avec un 10 ans français à 3%, 4,44 pour la dette américaine de même échéance, et des dynamiques monétaires qui se retendent à nouveau, alors même qu'on a plutôt de bonnes nouvelles sur le front de l'inflation, notamment au Royaume-Uni. Vous avez vu, hein, l'inflation qui dégringole du côté des 2%, des objectifs classiques, hein, des grandes banques centrales en termes de tendance sur les prix. Mais malgré tout, voilà, on a des divergences monétaires à prendre en compte, hein, du côté des investisseurs. Et ça pèse sur énormément de secteurs. Le secteur du luxe, notamment à Paris, avec Hermès qui signe quand même la plus forte baisse du CAC 40 à moins 2,6%, 2221 €. On a Kering aussi qui perd 0,65% à 331,15 €. Les valeurs techno, on le disait, certaines sont en baisse, comme Capgemini par exemple, qui recule d'1,5% à 206,40 €. Et puis à noter que la baisse des prix du brut, hein, ces dernières heures, du côté des 80 $ maintenant pour le baril de Brent de mer du Nord, pèse sur Total Energy qui recule d'1,37% à 65,49 €. Du côté des valeurs en hausse sur le CAC 40, on a quand même de la techno qui se démarque bien, avec Dassault Systèmes qui gagne 1,95% à 39,27 €. On a Safran plus 0,56 à 213,80 €. À noter Schneider Electric qui réagit bien à l'annonce de l'abandon d'une opération financière et qui gagne 0,41% à 232,20 €. Et puis Soitec qui gagne 1,9%, une des plus fortes hausses du SBF 120. On est à 112,80 € après un relèvement de recommandations et d'objectifs de cours de JP Morgan sur le titre. Tout ça avant les résultats d'Nvidia, hein, ce soir après la clôture de Wall Street, qui évidemment constitueront l'événement majeur de la journée. Le CAC, moins 0,48, 8102 points. Et du côté de l'euro face au dollar, on bouge toujours très peu. 1,0858 en ce moment, Stéphane.
Merci beaucoup, Antoine Larigauderie. On se retrouve dans une heure. On reparlera des marchés financiers avec nos deux traders. Le match des traders à suivre dans 5 petites minutes. Mais d'abord, le journal de votre argent.
Tout pour investir, le journal de votre argent.
3 sujets d'actualité retenus par Félix Bollaert. Bonjour Félix. Baron Capital, fondateur du club des investisseurs indépendants. D'abord, cette question, comment réguler les locations meublées touristiques? Les sénateurs ont adopté une proposition de loi. Elle prévoit notamment, et on en parle beaucoup, une modification des règles fiscales qui, pour l'instant, favorise les locations meublées touristiques par rapport à la location traditionnelle.
Pour l'instant, c'est le cas. Et le but de la loi Lemeur, loi transpartisane qui est étudiée au Sénat, c'est justement d'essayer d'harmoniser la fiscalité entre la location meublée de tourisme et la location nue, pour palier. La crise du logement dont on parle, c'est vraiment le nouveau chantier du ministre du logement Guillaume Kasbarian. Et le but, donc, c'est de raboter la niche fiscale des meublés touristiques, type Airbnb, Abritel, etc. Mais aussi quelques autres mesures un petit peu plus pratiques. Par exemple, renforcer le contrôle de l'inscription des logements meublés touristiques en mairie et mettre aussi plus de critères, notamment dans la performance énergétique des logements. Mais le problème, c'est qu'on s'aperçoit que la crise du logement et puis cette loi sur les meublés touristiques, elle se concentre sur ce qu'on appelle les zones tendues. Paris, Lille, Lyon, Bordeaux, Montpellier et... Comme par hasard...
Ce sont les zones, sauf erreur de ma part, où les loyers sont encadrés.
Voilà, ce sont les zones où les loyers sont encadrés. Paris, Lille, Lyon, Bordeaux, Montpellier, quand je dis Paris, avec 100 ans avec sa couronne. Et malheureusement, si on encadre les loyers, ça n'encourage vraiment pas les investisseurs immobiliers en résidentiel à faire de la location nue. Pour augmenter leur rendement, ils vont vouloir faire du meublé touristique, même si c'était 120 jours de Airbnb par an. Alors déjà qu'ils sont contraints par un nombre de nuitées Airbnb limites, qui sont contraints par une certaine fiscalité, ça va être compliqué si on les contraint encore en rabotant la niche fiscale.
Ce que vous dites, c'est qu'au lieu de serrer la vis sur les locations meublées touristiques, il faudrait desserrer un petit peu l'étau sur les locations traditionnelles.
Mais tout le monde préférait, je pense, avoir des baux de long terme sécurisés en résidentiel plutôt que de s'amuser à changer les draps tous les 15 jours, si vous me permettez l'expression. Si vous achetez aujourd'hui un appartement à Lille de 60 mètres carrés, ça coûte 300 000 euros. Donc sur 25 ans, vous allez avoir 12 000 euros de charges d'intérêt par an et 12 000 euros d'amortissement. L'exemple est simple, vous comprenez, il faut donc rembourser tous les mois 2 000 euros. Qui loue 60 mètres carrés pour 2 000 euros à Lille ? Personne, parce que les loyers sont plafonnés. Donc, avant de raboter les niches fiscales, on peut harmoniser la fiscalité, dire c'est le même tantième 2% pour tout le monde, mais il faudrait surtout déplafonner les loyers dans les zones tendues, ce qui encouragerait le retour des investisseurs résidentiels.
Mais ceux qui militent en faveur de l'encadrement des loyers disent également qu'on n'a pas suffisamment de logements à bas prix, des HLM et des logements intermédiaires.
Eh bien, il faut qu'on en construise.
En fait, c'est vraiment une chaîne alimentaire, une chaîne de valeur qu'il faut revoir.
Ben, il faut débloquer certains maillons de cette chaîne-là et puis aussi peut-être changer la loi de non-artificialisation des sols, c'est dur à dire, pour libérer justement la construction et les permis des promoteurs.
Dans l'actualité également, cette question, est-ce que c'est le moment d'investir dans les foncières commerciales? Depuis le début de l'année, elles ont nettement progressé. 13% de hausse pour Mercialys, 17% de mieux pour Unibail, Rodamco, Westfield et 6% de progression pour Carmila, c'est la foncière du groupe Carrefour.
Alors, c'est une foncière qui détient les galeries commerciales attenantes aux hypermarchés Carrefour. C'est-à-dire que quand vous allez chez Carrefour, vous traversez une grande galerie avec une cinquantaine, une soixantaine, parfois plus de boutiques, avec des enseignes de beauté, avec des enseignes de bouche, avec du textile, etc. Ça s'appelle une galerie commerciale. Et c'est détenu par des foncières. Il y a Mercialys, qui le faisait avec Casino. Il y a Carmila, qui le fait avec les hyper Carrefour. Sur l'année passée, Carmila, elle rapporte 30% à ses actionnaires si on combine le dividende d'environ 8%, et la plus-value sur 12 mois, la plus-value latente, à 22%. C'est pas mal pour une immobilière de rapporter 30%. Je ne sais pas s'il y a des gens qui le font à Airbnb de l'autre côté, sachant que c'est plus simple d'acheter une action Carmila. Et cette performance, elle a été notée par Citi, par l'analyse de Citi, qui a relevé l'objectif de cours à 19 euros. 19 euros, ça correspond à peu près à 80% de l'actif net, donc 80% de la valeur nette des dettes du patrimoine immobilier. C'est atteignable assez facilement, d'autant plus que Carmila a un endettement limité, environ 36%. Qu'est-ce qui renforce l'attractivité de Carmila ces dernières semaines, ces derniers trimestres? C'est l'acquisition de Galimmo. Galimmo, qui était une foncière justement de centres commerciaux en Espagne, qui est extrêmement relutive pour Carmila. Elle dope sa fréquentation, elle dope le chiffre d'affaires des enseignes. Et les foncières commerciales, elles ont cette différence par rapport aux autres, c'est que quand le chiffre d'affaires des enseignes locataires progresse, eh bien, les revenus locatifs aussi et vos dividendes en tant qu'actionnaire également.
Salon Vivatech à Paris, BFM Business est partenaire. Ce soir, les résultats de Nvidia. On parle beaucoup de tech en ce moment. Vous avez jeté un œil sur les semi-conducteurs. Il y a une valeur qui vous intéresse. C'est un groupe autrichien, AMS. Il a gagné pratiquement 50% à la bourse de Zurich en l'espace d'un mois.
Oui, est-ce qu'on va avoir un producteur de microchips, de semi-conducteurs et de puces en Europe? On l'espère, c'est AMS Osram. On connaît peut-être Osram pour les petites boîtes d'ampoules qu'on peut trouver dans les magasins de bricolage. En fait, AMS est un producteur de puces et de semi-conducteurs autrichiens. qui a beaucoup progressé en un mois. Mais alors attention, c'est une pépite peut-être intéressante, mais depuis 5 ans, elle n'a pas gagné d'argent. C'est très difficile, mais elle a annoncé un investissement de 590 millions d'euros pour développer une usine de semi-conducteurs en Autriche, avec une enveloppe de soutien de 200 millions d'euros de l'Union européenne pour pouvoir produire et assurer... Alors, ça ne va pas être une dépendance totale, mais une petite dépendance en approvisionnement de semi-conducteurs. Et on sait à quel point le sujet est critique quand on sait, vous avez parlé de Nvidia, qu'Nvidia contrôle 80% de la production de semi-conducteurs mondiaux. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce que, en termes boursiers, ce que pourrait rapporter un investissement dans AMS quand on voit que les concurrents ASML, ARM Holdings ou TSMC, sur un an, offrent des performances allant de plus 40 à plus 90%.
Mais qui ne font pas tout à fait le même métier en réalité.
Qui font pas le même métier, qui n'ont pas la même taille, mais c'est tellement des géants, ces comparables boursiers, que une boîte comme AMS de petite taille, elle pourrait faire une super cible d'OPA et pour l'intégrer.
Et là, on y vient. Il y a un intérêt spéculatif.
Il y a un intérêt spéculatif. Mais dans spéculatif, attention, il y a le mot spéculatif. Donc, pour investisseurs avec l'estomac bien accroché.
Merci Félix. Vous restez avec nous dans un instant. Laurent Grassin, le directeur des contenus de Boursorama, viendra nous rejoindre et on reviendra sur ces sujets. On en débattra avec lui. On va notamment parler des foncières commerciales. On parlera des semi-conducteurs. Puis on parlera également d'Alstom qui revient un petit peu en grâce sur le marché parisien. Mais d'abord, le match des traders, il est bientôt 10h15.
Tout pour investir, le match des traders.
Valentin Nico, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct, et Antoine Fraisse-Soulier, responsable de l'analyse des marchés chez eToro. Bonjour à tous les deux. On va regarder ce marché parisien. Antoine nous disait à l'instant
qu'il
a du mal à rebondir ce marché. On ne voit pas de signe de rebond et la baisse continue. Valentin, vous, quel est votre regard sur cette séance et sur ce début de semaine un peu compliqué à la Bourse de Paris ?
Ouais, en effet, un peu compliqué. On sent de l'hésitation venir. C'est assez normal, hein, vu ce qui va sortir comme news en fin de journée. On a quand même des publications très importantes aux États-Unis. Bien sûr, la plus regardée, comme on a pu vous le dire, c'est Nvidia, qui peut amener à des milliards de dollars de moins en capitalisation sur les marchés américains. Donc, ça va être très regardé. Et tous les espoirs sur l'IA et les microprocesseurs seront aussi analysés, donc c'est important. On a Target qui publie également dans la consommation et Snowflake dans aussi l'intelligence artificielle. Donc voilà, ce sera assez déterminant et on pense pas qu'il y aura beaucoup de prises d'initiative ce jour avant ces publications. D'ailleurs, c'était le cas aussi sur la séance d'hier. On sent un peu d'inquiétude venir avec des couvertures qui sont prises sur les marchés dérivés. Sans que ça soit inquiétant et que l'optimisme général soit vraiment remis en question. On a un ratio put call encore optimiste. Pour ce qui est des traders journaliers, le marché il est assez facile à cadrer ces jours-ci. On a une résistance principale à 8200. Nous on a un pivot 8150 où on estime que au-dessus de ce niveau, on reprendra une tendance haussière et on redevient un peu plus optimiste. Et on fera attention aux résistances des 8100 et 8050 qui sont un peu en dessous de nous actuellement. Sinon, voilà, c'est les niveaux à retenir. Et il n'y aura pas, je pense, de gros décalage sur ces niveaux-là avant les publications dont on a parlé tout à l'heure.
Antoine, comment est-ce que vous regardez cette séance ? Est-ce que vous êtes d'accord avec Valentin ? On pourrait appeler cette séance et ce début de la semaine en attendant Nvidia. C'est vraiment le driver que les marchés attendent cette semaine ?
Oui, oui, tout à fait. Les résultats d'Nvidia, c'est vraiment l'événement le plus important de la semaine. On aura quand même aussi les minutes de la Fed à 20h. Ça serait aussi intéressant de regarder un petit peu comment s'est passée la dernière réunion de la Fed. Mais effectivement, Nvidia, c'est vraiment tout ce que tout le monde attend. C'est pour ça qu'on a un attentisme sur les marchés. Mais toutefois, ce que je note, c'est que le CAC 40 a une certaine faiblesse par rapport aux autres indices européens, notamment à cause du luxe, hein, puisque ce matin, par exemple, on voit que le luxe est encore à la peine. On voit qu'Hermès, c'est la plus forte baisse du CAC, alors que c'est une forte pondération. Elle perd quasiment 3%. On arrive sur des plus bas depuis le mois de février et également pour LVMH qui arrive sur des plus bas depuis le mois de janvier. Donc on a des valeurs du luxe qui font des plus bas depuis plusieurs mois, et donc ça tire en fait la cote parisienne à la baisse. On est donc en baisse de 0,5%. C'est pas non plus trop catastrophique, mais on revient voilà sous les 8100 points sur le cash. Alors maintenant, on a un gap ouvert à 8090 points. Donc on est plus qu'à une dizaine de points de ce gap qui a été ouvert le 8 mai dernier. Si on devait casser ces 8090, selon moi, ça ouvrirait la porte à une phase de baisse supplémentaire vers les 7900 points. Et les 7900 points, c'est vraiment un support majeur puisque c'est le support sur lequel le CAC avait rebondi au début du mois de mai. En revanche, si on avait des bonnes surprises du côté d'Nvidia, des marchés américains qui continuent à repartir à la hausse, on aurait, pourquoi pas, un CAC qui pourrait repartir à la hausse. Donc, le plus haut, c'est 8250, c'est le plus haut historique, mais on en est quand même un petit peu loin. Mais je pense qu'il y a quand même un peu de faiblesse sur l'indice parisien et sur les indices européens en général.
Merci beaucoup à tous les deux. Antoine Fraisse-Soulier, responsable de l'analyse des marchés chez Itoré. Et merci à Valentin Nico, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. 10h18, on va maintenant commenter les infos qu'on a évoquées il y a un instant dans le journal de vos finances.
Tout pour investir, tout pour votre argent.
Avec toujours Félix Bollard en plateau, Baron Capital, fondateur du Club des investisseurs indépendants, et Laurent Grassin qui nous a rejoint, directeur des contenus de Boursorama. Bonjour Laurent.
Bonjour.
On va faire un peu de stock picking, on va s'intéresser à ces valeurs qui vous paraissent à tous les deux intéressantes. D'abord, les foncières, on en parlait il y a quelques minutes avec Félix, elles ont nettement progressé depuis le début de l'année, 13% de mieux pour Mercialys, plus 17% pour Unibail, Rodamco, Westfield, plus 6% pour la foncière du groupe Carrefour, Carmila. Pourquoi est-ce qu'elles rebondissent, ces valeurs ? Enfin, concrètement, quand on se balade dans les centres commerciaux, on voit encore pas mal d'emplacements qui sont vides.
Les foncières commerciales, effectivement, c'est bien de le préciser. Donc, comme le disait Félix, qui gère ces centres commerciaux qu'on retrouve à côté des grandes surfaces. Pourquoi elles rebondissent ? Parce qu'on pense... Alors oui, il reste emplacements vides, mais on voit aussi que la fréquentation est quand même pas mal revenue. Je pense que ça, c'est une des premières choses. C'est-à-dire que on avait annoncé, sans doute au moment de la crise Covid, que c'était la fin des ventes physiques, que finalement, on s'était rendu compte qu'on pouvait tout faire en ligne et que c'était terminé, que ça allait être la décrépitude des centres commerciaux. Résultat, 2-3 ans après, on se rend compte que les gens reviennent parce que, notamment les enseignes qui sont au sein de ces centres commerciaux, ont su réinventer leur concept et attirer les clients. Donc ça, c'est la première chose. Le centre commercial n'est pas mort. Et en plus, les foncières qui gèrent ces centres commerciaux connaissent plutôt bien leur travail. Le deuxième, c'est qu'on a sans doute le sentiment que le plus dur est passé. C'est-à-dire qu'après un contexte, effectivement, où on s'attendait à une crise économique, on était sur une augmentation des taux. On sait que les foncières sont très sensibles à l'augmentation des taux ou aux taux élevés, parce que généralement, elles sont endettées. Bon, là, on est en train de se dire que finalement, les perspectives sur l'exercice 2024, et notamment sur celle de Carmila, ont été confirmées. C'est plutôt solide. On est sur des objectifs, ou en tout cas des perspectives qui sont plutôt favorables, dans un environnement qui s'est beaucoup assaini. Donc on se dit, bah oui, entre-temps, même si le mouvement de rattrapage, on a eu l'occasion de le commenter avec Félix, il commence pas depuis aujourd'hui, il a commencé depuis un certain temps, on se dit, bah oui, il y a sans doute encore de la place, parce qu'il y avait une telle défiance sur le secteur dans son ensemble que tous les discours sur l'immobilier, que ce soit le résidentiel, les foncières et autres, on était arrivé à un tel point de côté apocalyptique qu'à un moment, on revient sur, oui, c'est un marché qui est tendu, c'est un marché compliqué. Après, c'est des professionnels du secteur qui savent gérer ces cycles, y compris quand ça va un peu moins bien.
Apocalyptique. Félix, est-ce que ça veut dire que ces valeurs ont été trop sanctionnées, qu'aujourd'hui elles sont particulièrement attractives, leur niveau de valorisation sont assez bas ?
Elles l'étaient encore il y a quelques mois. Là, elles reviennent. Oui. Elles sont toujours pas au normal de saison. J'ai un repère assez simple, c'est que les foncières commerciales, type Unibail, Klépierre, Mercialys, Carmila, etc., normalement, elles cotent au-dessus de leur actif net. C'est-à-dire qu'elles s'achètent plus cher en bourse que leur valeur de patrimoine net. Pourquoi ? Parce que les investisseurs anticipent une augmentation des dividendes via une augmentation des loyers. Et mécaniquement, via, comme le disait Laurent, un retour à une meilleure fréquentation et à un meilleur chiffre d'affaires des enseignes. Elles ont été trop sanctionnées. En fait, aujourd'hui, c'est celles qui s'en sortent le mieux aussi parce que pendant le Covid, c'était vraiment annus horribilis, l'acid test. Il n'y a rien eu de pire pour des foncières commerciales que d'avoir des centres commerciaux fermés où on ne peut pas aller. Donc maintenant, entre guillemets, elles n'ont plus peur de rien après que c'est passé, et leurs investisseurs non plus. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on revient à des cours qui sont allés à des 70-75% de l'actif net. Mais tant qu'on ne sera pas à 100%, il y a encore de la marge et on voit que les dividendes continuent à progresser. Par exemple, Mercialis, un dividende de plus 3%, qui a augmenté plus de 3% l'année dernière.
Mais on entend quand même depuis quelques années ce discours sur le centre commercial qui doit se réinventer, les modèles de distribution qui ont changé. Pas forcément 100% digital, mais le centre commercial de nos parents,
Il le fait.
C'est plus le même.
Il le fait à la fois dans les formats qu'on propose aux gens, à la fois dans le mix maintenant de plus en plus physique et digital. Vous pouvez faire du click and collect, vous pouvez aller chercher votre commande, vous la commandez en ligne, vous allez chercher dans le magasin. Donc,
Donc cette transformation, elle est déjà effectuée.
Ah oui, oui. Enfin, elle est peut-être pas complètement finalisée, mais on voit bien que, en tout cas, beaucoup d'enseignes ont complètement intégré cette évolution des modes de consommation. Mais on voit aussi que le consommateur, lui aussi, peut-être qu'il en a marre quelquefois de tout acheter en ligne. Il est content de pouvoir retrouver un magasin physique dans lequel il va retrouver ses produits. Donc, le centre commercial, il est loin d'être mort pour moi.
Ouais. Il y a quand même des vêtements, enfin il y a quand même des produits, notamment les vêtements, qu'il est difficile d'acheter en ligne.
Si vous regardez, c'est justement la part du textile, c'est celle qui baisse le plus dans le mix locataire au profit d'enseignes, de loisirs, de beauté, etc. Et pour finir là-dessus, on ne va plus au centre commercial juste pour acheter, on y va pour se restaurer, pour aller à un événement organisé, pour aller emmener ses enfants voir le Père Noël pendant les fêtes, etc. c'est devenu, l'expression est consacrée, des lieux de vie.
Ouais. Quelle valeur choisir si on veut investir sur les semi-conducteurs? On parlait tout à l'heure du groupe autrichien AMS qui a gagné quasiment 50% à la bourse de Zurich en l'espace d'un mois. On a pas mal d'acteurs des semi-conducteurs en Europe, ils ne font pas tous le même métier. ASML, ça n'est pas STMicro, ça n'est pas Armholding.
ASM Osram, ils sont sur la photonique, ils font beaucoup de capteurs en lien effectivement avec la lumière et autres. Et oui, il y a certes cette hausse de 50% sur le dernier mois, mais il y a eu un joli gadin un petit peu avant dont
donc
on n'a pas
encore parlé.
Je pense qu'il y a une partie de rebond. Alors on va venir sur l'aspect spéculatif, parce qu'effectivement, quand on a un acteur extrêmement spécialisé comme ça et qu'il est à 1 franc suisse 40 ou autre de mémoire, donc il n'est pas très élevé, ça peut faire des tentations. Mais ce qui s'est passé surtout, c'est qu'effectivement, le groupe est très lié avec Apple parce qu'il lui fournit beaucoup d'équipements, notamment pour ses smartphones. Et il y a eu l'annonce de l'abandon par un client. Alors, le groupe n'a pas confirmé que c'était Apple, mais les analystes ont franchi le Rubicon sans trop de problèmes, de la technologie micro-LED qui était censée équiper des produits d'Apple, qui a été vraiment un très, très gros coup dur pour le groupe. L'action, elle a perdu 40% en une séance avec des effets sur ses comptes à attendre, puisqu'il y a quand même des milliards qui ont été investis dans cette technologie. Elle n'est pas forcément morte. Bon,
Micro-LED, pour que tout le monde comprenne, c'est des écrans.
C'est vraiment des petites micro-LED qui permettent de faire des pixels et d'avoir un affichage, exactement, pour l'affichage sur les écrans. Et donc l'abandon de cette technologie, pour le groupe, ça a été un coup dur. Donc oui, il y a ce rebond par ce programme d'investissement dont parlait Félix. À court terme, il y a quand AMU, Félix l'a dit aussi, le groupe il s'est quand même bien cassé la figure depuis la fusion qui a été très compliquée entre les deux groupes. Donc intérêt spéculatif, parce que sur les fondamentaux, le groupe doit vraiment faire ses preuves, surtout après cet arrêt de la technologie micro-LED.
Avec les foncières, on parlait tout à l'heure de les foncières commerciales d'entreprises qui reviennent de loin, c'est un petit peu le cas pour Alstom.
Oui. Alstom
est en tête du SBF 120 depuis le début de l'année, une très longue période qui a été compliquée depuis le rachat de Bombardier, en gros.
Exactement, et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler, parce que le titre est sorti du CAC 40 18 mars, de mémoire, et ça lui a fait du bien. Quelquefois, on se rend compte que quelquefois, des boîtes qui sortent du CAC 40, elles vont mieux après. Ce qui s'est passé sur Alstom, c'est qu'il y a eu effectivement, là aussi, cette séance terrible dans laquelle le groupe avait dit qu'en fait, au niveau de son cash flow, il ne serait pas aux attentes du marché. Sanctions terribles, quasiment 40% de baisse sur une séance du valeur du CAC 40. À l'époque, ça ne s'était jamais vu. Et après, on élargit un petit peu la focale, on est sur un groupe qui est leader dans son métier, sur un besoin, un marché dont on nous dit qu'il devrait doubler d'ici 2050, avec un carnet de commandes qui est bien établi, avec bien sûr toujours des risques, parce que quand on est un intégrateur comme ça, qu'on est sur des très gros projets, il faut savoir gérer ses rentrées de trésorerie. C'est principalement là-dessus qu'il a été sanctionné. Il y a eu des efforts qui ont été faits, il y a une recapitalisation, on s'attend désormais à une progression de la rentabilité.
Et puis il y aura peut-être une purge progressive de ces contrats déficitaire dont le groupe avait hérité après le rachat de Bombardier.
Ouais, et puis encore une fois, on a l'impression quand même qu'une grande partie du travail d'assainissement a été fait. On espère que la communication va rester très claire aussi, très compréhensible pour le marché, parce que les comptes sont pas toujours lisibles. Voilà, peut-être que, pardon pour le jeu de mots, Alstom est de retour sur de bons rails.
Félix, Alstom sur les rails?
Ouais, le fait d'avoir été mis au coin lui a fait du bien. On enlève le bonnet d'âne et on revient.
On est plus sur une voie de garage?
Non, voilà, on peut faire beaucoup de jeux de
mots. Allez, ouais, on est parti.
Mais plus 16% sur un mois, plus 45% sur les 6 derniers mois. Et je pense qu'il y a encore du potentiel. Si on regarde d'un point de vue des indicateurs boursiers, maintenant, juste les critères avant d'acheter une action, un bêta à 1,13, ça veut dire que l'action est vraiment pas très risquée, juste un petit peu au-dessus de 1 sur son marché. 59% des analystes recommandent de détenir l'action ou de la garder et les ratios sont encore raisonnables. 14 fois le PER pour une entreprise industrielle, ça va. Une valeur d'entreprise sur EBITDA à 13,4, c'est encore achetable. Ce qui me rassure, c'est de voir que le chiffre d'affaires continue de croître, donc ça veut dire que les carnets de commandes suivent. Un retour avec un vrai profit substantiel trimestre après trimestre, et là, ça serait parfait. Mmh. Et c'est peut-être ça qu'on doit viser finalement, c'est d'avoir 2 ou 3 trimestres de retour avec des profits consécutifs.
Il nous reste peu de temps, on va faire vite. Ipsomed, oui. C'est un fabricant de stylos injecteurs pour Novo Nordisk, le mastodonte de la pharmacie en Europe, qui cartonne avec ses traitements anti-obésité. C'est ce qui tire le titre. Du coup, par effet de ricochet, Ipsomed en profite.
Bah, en fait, on dit souvent, vous savez, Fabrice, c'est ce qu'on dit traditionnellement, que plutôt que les chercheurs d'or, il faut regarder les
vendeurs de pellets
de pioche. Alors, les vendeurs ou de tamis. Alors, les vendeurs de pellets de pioche et de tamis, dans le domaine du GLP-1, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être effectivement ceux des stylos injecteurs, puisque c'est encore, même si on commence à voir le début de traitements oraux pour la prise de ces GLP-1, donc ces médicaments, on va dire, miracles, avec les guillemets qui vont bien, anti-obésité. Et aujourd'hui, on est encore dans de l'injectable. Et donc, pour de l'injectable, il faut des stylos injecteurs. Alors Ipsomed, moi aussi je voulais parler de ma valeur suisse, il n'y a pas de raison que Félix soit le seul. C'est une valeur suisse, on pourrait l'appeler MedTech puisqu'elle fait des dispositifs médicaux. Qui a le gros avantage de générer du chiffre d'affaires, d'être profitable. D'ailleurs, elle a publié ses résultats ce matin et on va me dire, il est gentil, Laurent Grassin, mais voilà, c'est trop tard. Elle gagne 9,76%. Le titre est un peu cher, il est à plus de 300 francs suisses.
Ouais, mais quand c'est beau, c'est cher.
Oui, et il reste du potentiel. Donc ils sont dans la pompe à insuline et vous l'avez dit, ils ont un contrat avec Novo Nordisk pour les stylos injecteurs dans le GLP-1. On sait très bien, on ne va pas refaire l'histoire, le potentiel de ce marché, la demande, donc on peut imaginer que ça va être des revenus encore supplémentaires. Il y a aussi potentiellement, on en parlait dans le journal des biotech qu'on fait sur Boursorama avec l'analyste Frédéric Gomez, peut-être une autorisation de mise sur le marché de leur pompe à insuline sur le marché américain. Donc, il y a des relais de croissance, c'est une valeur chère, c'est une valeur qui est cotée en Suisse, attention aux frais, c'est une valeur qui est assez peu liquide, mais ça vaut le coup de regarder.
Rapidement, Félix, Ipsomed. Bah,
toute société suisse à mes faveurs. Hein. C'est pas pour rien que le club des investisseurs indépendants a son siège à Lausanne. Non, mais si on regarde les Novartis, les Sandoz, les Roche, les Veleda, c'est des sociétés suisses qui ont un tissu industriel pharma très fort et qui savent se développer, évidemment, à l'export. Le marché suisse ne suffisant pas à lui-même. Dans l'analogie des pelles et des pioches, ça sera intéressant de regarder peut-être dans quelques trimestres ensuite les vendeurs de traitements pour les effets secondaires de ces GLP-1, dont je ne doute pas qu'ils devraient intervenir, mais mécaniquement, sans forcément gravité. Mmh. Mais vu l'effet de masse de consommation sur ces traitements, il y aura forcément des traitements d'effets secondaires. Et il y a fort à parier que les Suisses soient sur les rangs.
Merci beaucoup à tous les deux. Laurent Grassin, directeur des contenus de Boursorama. Félix, vous allez me donner la prononciation exacte de votre nom parce que depuis le début de la demi-heure, j'arrête pas de l'écorcher.
Bollard, c'est parfait.
Bollard, parfait. Baron Capital, fondateur du club des investisseurs indépendants. À suivre dans un instant, Nicolas Dose. Dose d'économie, on va parler du vœu pieux d'Emmanuel Macron. Est-ce que la France peut devenir championne du monde de l'intelligence artificielle? On parlera ensuite de Capgemini. Est-ce que c'est une bonne idée de l'avoir en portefeuille? Et puis notre coach, ce sera la cofondatrice de PixPay. Elle va nous expliquer comment parler d'argent, comment inculquer les bases d'une éducation financière à ses enfants, à partir de quel âge et avec quel objectif. On en parle donc après la pause.
Tout pour investir. Dose d'économie.
Bonjour Nicolas Dose.
Bonjour.
Emmanuel Macron, ambassadeur de la tech française, le président de la République a dévoilé hier un nouveau plan d'investissement public pour faire de la France, attention, une championne de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est possible, Nicolas, de s'imposer comme l'un des principaux acteurs mondiaux de l'intelligence artificielle?
Ah oui, vu les talents et la créativité qu'on a en France, on a parfaitement la possibilité, si on s'en donne les moyens, peut-être pas d'être leader, mais d'être dans le top 3, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais là, il y a deux conditions. Il va falloir complètement changer et faciliter l'accès au financement. Il va falloir complètement changer et faciliter l'accès aux compétences.
Alors, comment est-ce qu'on améliore l'accès au financement?
Pour l'accès au financement, vous avez les initiatives publiques, comme celle qu'a annoncé Emmanuel Macron hier. Donc, c'est un fonds pour ne pas former 40 000, mais 100 000 personnes par an à l'intelligence artificielle. Très bien. Vous avez d'autres programmes, comme le programme France 2030, qui a été lancé en 2021. Grand programme d'investissement dans 5 grands domaines stratégiques, doté d'un peu plus de 50 milliards d'euros. C'est très bien. Vous avez encore les fonds Tibi, qui ont été lancés par un économiste, professeur Alix, à ce moment-là à Bercy. Il s'appelle Philippe Tibi. L'idée, c'est globalement d'inciter les assureurs à diriger l'épargne de leurs clients qui sont d'accord vers le financement des entreprises. C'est très bien, mais on n'est pas sur des montants qui sont à l'échelle du sujet et qui répondent à l'ampleur du sujet. Après, la nécessité, c'est donc d'accroître la présence de l'épargne privée dans le financement de l'économie. L'outil idoine, la voie royale, la machine de guerre s'appelle les fonds de pension. Il se trouve que la retraite par capitalisation n'a pas existé dans le débat sur les retraites en France. On a une sorte d'hostilité rédhibitoire. Ouais. Cette histoire-là, pour des raisons un peu bizarres d'ailleurs. On passe notre temps à dire pique-pendre sur les dividendes que touchent les actionnaires, mais on refuse finalement de profiter de ces dividendes. Alors sinon, il y aurait une autre piste qui est notamment défendue par Jean-Hervé Lorenzi pour le Cercle des économistes, qui consisterait à avoir un nouveau véhicule d'investissement où l'épargne placée, les capitaux investis, bénéficient d'une garantie de l'État. Le constat est de dire que le gros de l'épargne privée va se retrouver dans les bas de laine des plus âgés et souvent des retraités. Que c'est une population qui n'a vraiment pas envie de prendre du risque à cet âge-là. Et que donc, s'il y a une garantie sur les capitaux investis, mais pas les rendements futurs, bien sûr, eh bien, à ce moment-là, ça pourrait peut-être débloquer là des montants massifs qui pourraient être investis dans les entreprises. Voilà des pistes pour modifier et permettre l'accès au financement. C'est le sujet, le problème de l'accès au financement.
Est-ce que tout ça, ça permettrait d'arriver au niveau de financement qu'on voit aux États-Unis? Enfin, les montants sont absolument colossaux aux États-Unis.
Si on avait un fonds souverain et des fonds de pension, objectivement, on aurait je vous rappelle les montants de l'assurance vie, 1900 ou quasiment 2000 milliards d'euros. Sur ce montant, 1400, c'est en dette publique de la France, dans les fonds en euros. Et il y a effectivement de l'unité de compte. On pourrait avoir des mouvements en centaines de milliards quand même. Je ne vous dis pas qu'on fera la puissance de frappe des Américains, mais on aura quand même la capacité, et bien pas simplement d'être là pour le early stage, comme toujours, et généralement, la partie, pour bien parler en bon français, la partie scale-up, et bien elle va se passer effectivement ailleurs.
Après le financement, la question des compétences, comment est-ce qu'on améliore l'accès aux compétences? Il y a quand même quelque chose qui me frappe en France, c'est qu'on ne parle pas d'intelligence artificielle dans l'éducation nationale.
Oui, alors ça, bon, il y a le sujet de l'éducation nationale, mais l'accès aux compétences, c'est dans le prix du travail très qualifié que ça se joue. On a une particularité qui est unique, c'est qu'on a décidé, alors j'ai même pas retrouvé l'année précise, de déplafonner les cotisations sociales passé un certain salaire. Donc, autant la France est allée plus loin que n'importe qui d'autre pour baisser les cotisations sociales sur les bas salaires, c'est un des éléments qui explique la fameuse smicardisation, autant elle pète les scores sur les cotisations des hauts salaires. Au-delà de 3,5 SMIC, tout est déplafonné. Donc à ce moment-là, si vous voulez avoir accès à quelqu'un de très qualifié, qui sera impératif pour effectivement s'inscrire sur la première, la deuxième ou la troisième marche du podium, eh bien, ça vous coûte tout simplement une fortune. Et si la France disposait du même système de plafonnement des cotisations sociales que l'Allemagne, au-delà de 3,5 SMIC, les salariés qui sont au-delà de 3,5 SMIC verseraient 24 milliards d'euros en moins par an, au financement du système de protection sociale. Enfin, c'est le grand sujet. On a un système de cotisation qui a été pensé pour l'emploi non peu qualifié, voire non qualifié, au détriment de l'emploi très qualifié. Il y a une règle de base, hein. Si vous décidez de subventionner quelque chose, vous multipliez cette chose qui est subventionnée. On a décidé qu'on allait subventionner le SMIC. Bizarrement, on a multiplié le SMIC. Demandez-vous d'ailleurs pourquoi, dans tous les baromètres d'attractivité, là on est depuis la cinquième année en tête du nombre d'investissements directs étrangers, mais on est complètement à la traîne des autres pays sur le nombre d'emplois créés par ces investissements directs étrangers. Parce que ces investissements directs étrangers sont pour l'essentiel dirigés vers l'industrie. Parce que dans l'industrie, on n'est pas du tout un SMIC, mais on est plutôt aux alentours de 2,5 SMIC, et bien voilà pourquoi on crée beaucoup moins d'emplois que les autres, avec des projets d'investissement direct étranger. Et donc cette question va soulever une fois de plus derrière la question du financement de la protection sociale française et la réforme de l'État. Donc voilà comment on change l'accès au financement, comment on change l'accès aux compétences. Mais par contre, si on se donne ces deux éléments-là, à ces deux conditions-là, oui, l'espoir d'Emmanuel Macron d'une France championne de l'IA, c'est pas complètement hors de portée.
Et on parlera du sujet une autre fois, mais il y a aussi un véritable sujet en matière d'éducation.
Alors oui, ça, je suis d'accord. on met toujours plus d'argent et on ne cesse de reculer dans les classements PISA. Mais là, je parle, si vous voulez, des vraiment les très gros potentiels dont on a besoin dans ces entreprises pour aller vraiment au-dessus du lot. Ça coûte cher un potentiel, mais ça coûte moins cher en Allemagne qu'en France.
Merci Nicolas Dose. Tous les matins, la dose d'écho dans Tout pour investir et bien sûr sur notre antenne de 9h à 10h, les experts chaque matin sur BFM Business. En portefeuille, à présent, on va vous parler de l'action Capgemini. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas de l'intégrer dans votre portefeuille ?
Tout pour investir en portefeuille.
Christophe Pradillon, gérant de portefeuille à la financière Tiepolo, est avec nous. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Par téléphone. Vous aimez bien le titre Capgemini.
Tout à fait. Donc Capgemini, je vais vous faire un petit portrait. Donc c'est un acteur de référence mondiale dans les services informatiques. Société qui a été créée dans les années 60 sous le nom Sogeti par Serge Kampf et qui s'est rapidement développée à l'international grâce à l'essor de l'informatique. En fait, la société est devenue Capgemini en 1996 après avoir opéré une belle diversification au-delà de l'assistance informatique vers des métiers tels que le conseil, l'infogérance et plus récemment la R&D externalisée avec l'acquisition d'Altran en 2019. Je vous donne quelques chiffres pour compléter le portrait. Donc aujourd'hui, le groupe est présent dans 50 pays. Il compte plus de 340 000 collaborateurs dans le monde, dont 120 000 en Inde, et fait partie des poids lourds du secteur, aux côtés d'acteurs américains assez connus, tels qu'Accenture, Cognizant, mais aussi des acteurs indiens, Infosys ou TCS. Capgemini a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 22 milliards d'euros en croissance de 4,4% à taux de change constant, tout ça, avec une marge opérationnelle de 13% et un bénéfice net en croissance de 7%. Et juste pour compléter, donc on a une capitalisation boursière qui s'élève à 35,9 milliards d'euros.
Qu'est-ce qu'il représente au niveau mondial, ce marché des services informatiques en termes de taille, en termes de perspective de croissance, et quel est le modèle de Capgemini sur ce marché ?
Tout à fait. Alors concrètement, Capgemini mobilise des consultants, de la matière grise en fait, hein, qui va être recrutée et déployée chez leurs clients, en général des clients grands comptes chez Capgemini, pour les aider à réaliser leurs projets informatiques pour des durées qui vont de quelques semaines à plusieurs trimestres. Ces consultants, ils vont être facturés au forfait, in fine, ou alors à la réalisation du projet, et seront par la suite réaffectés chez d'autres clients. Évidemment, ils vont être facturés plus cher par la suite puisqu'ils auront acquis de l'expérience, d'où la nécessité pour Capgemini, et ça fait partie de son modèle d'affaires, de recruter et de former régulièrement des juniors afin de vraiment proposer des packages, des équipes en fait prêtes à l'emploi avec un vrai panaché de compétences que le client n'a pas nécessairement en interne pour réaliser son projet. Concernant le marché, donc il est estimé au niveau global à 1200 milliards de dollars en 2024 et il devrait connaître une croissance de 8% par an d'ici à 2030. Donc évidemment, on parle de milliers de milliards de dollars, donc il faut bien sûr subdiviser ce marché en différents segments. On entend souvent les entreprises nous parler de transformation digitale, de migration d'infrastructures dans le cloud, des problématiques d'infogérance ou encore de la cybersécurité. Bon, tout ça, ce sont les sous-segments de ce grand marché des services informatiques et en fait, la croissance de ces sous-segments est assez variable. On est sur des croissances à deux chiffres pour la cybersécurité par exemple, tandis que sur les services à plus faible valeur ajoutée comme l'infogérance, on a une croissance qui est plutôt très modéré. Mais dans l'ensemble, c'est un marché qui est dynamique pour peu qu'on soit positionné sur les compétences qui ont le vent en poupe. Et c'est en général le cas pour Capgemini.
On en parlait avec Nicolas Dose il y a quelques minutes. L'intelligence artificielle, sujet évidemment incontournable, a fortiori dans un secteur comme celui de Capgemini. Comment est-ce que le groupe se positionne sur ce sujet de l'intelligence artificielle ?
Oui, tout à fait. Je vous ai écouté tout à l'heure. Alors, Capgemini est assez discret dans ses propos sur ce sujet, mais je vais vous expliquer pourquoi je suis assez à l'aise avec le fait qu'il soit prudent. Et je vais vous donner un petit exemple. Il y a 2-3 ans, j'avais assisté à un meeting avec le dirigeant, Eman Ezzat, et à la question « Combien de chiffres d'affaires générez-vous dans la cybersécurité ?» C'était le sujet qui était revenu un peu à la mode. Il a répondu qu'il n'avait pas une réponse précise et que schématiquement, il faut quand même garder à l'esprit que finalement, 100% des projets menés par les équipes de Capgemini contiennent à un moment donné de la cybersécurité. Après tout, c'est assez compréhensible, on ne migre pas une base de données de toute une entreprise dans le cloud sans filet de sécurité. Et puis je me souviens de sa réponse qui était de dire que certains concurrents comptaient l'installation d'un antivirus comme une prestation de cybersécurité et qu'ils ne voulaient pas tomber dans ce piège en fait. Vous l'avez compris, c'est pas vraiment là qu'est la valeur ajoutée. Je suis sûr que vous et moi savons installer un antivirus sur un PC. Mais concernant votre question sur l'IA, en revanche, on a quelques éléments de réponse assez intéressants et qui font écho avec ce que le président a annoncé ce matin. Donc effectivement, à la mi-2023, ils avaient déjà annoncé investir 2 milliards d'euros pour recruter et former des spécialistes de l'IA et puis surtout adapter l'offre en conséquence. Un peu plus tard, lors de la publication du troisième trimestre 2023, ils ont précisé avoir déjà 30 000 personnes en interne qui sont spécialisées dans ce domaine. Voilà, donc tout à l'heure, vous parliez effectivement d'un objectif de 100 000 personnes formées par an parmi les objectifs du président. Là, ils disent qu'ils ont 30 000 personnes en interne. C'est dire s'ils sont a priori quand même un fer de lance dans ce domaine aujourd'hui, en fait, hein. Et puis enfin, en 2024, le groupe a annoncé un partenariat avec Mistral IA, donc qui est un acteur français qui développe des modèles d'intelligence artificielle générative. Donc vous l'avez compris, on n'a pas encore de chiffres précis, mais le dirigeant, qui s'est d'ailleurs aussi exprimé sur BFM en ce début d'année, il a rappelé que tous les chamboulements liés à l'intelligence artificielle en fait vont être principalement menés par des prestataires de services informatiques en amont. Et puis il y a un autre élément qui est intéressant, il faut bien voir que boursièrement, et je précise bien, c'est sur le plan boursier, hein, l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle est massivement associée à des acteurs comme Nvidia, à juste titre, hein, du côté du hardware, ou encore aux hyperscalers par exemple, qui peuvent proposer des fonctionnalités. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on ne connaît pas encore vraiment les modèles de pricing, hein, concrètement, combien je vends ma fonctionnalité IA, combien le client est prêt à payer et combien ça va lui rapporter. Donc évidemment, il faut qu'on discute de tous ces sujets-là, mais le modèle n'est pas encore très clair. En revanche, le prestataire informatique, lui, tel que Capgemini, il facture aujourd'hui concrètement déjà des consultants IA pour, entre autres, répondre à ces questions. Bon, et puis en dehors de l'IA, Capgemini dispose d'un profil qui est vraiment assez équilibré, exposé au marché qui compte, et c'est ce qui explique en fait le parcours opérationnel et boursier récent du groupe, puisqu'il est virtuellement sur ses plus hauts historiques ou pas très loin. Je mets de côté évidemment la période de la bulle Internet.
Christophe, dernière question, mais pourquoi Capgemini ? Pourquoi est-ce que c'est une bonne idée de l'avoir en portefeuille ?
Bah écoutez, avoir Capgemini en portefeuille permet d'être exposé à un marché en croissance, assez dynamique, on l'a vu, en relativisant le risque spécifique à certaines technologies. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on sait que la cybersécurité, le cloud ou l'IA sont des marchés qui sont en croissance, voire en très forte croissance. En revanche, on a un risque d'échec non nul quand on est exposé à un acteur extrêmement spécialisé, et ce risque, il reste plutôt mitigé et acceptable avec un prestataire global comme Capgemini. Par ailleurs, le secteur au sens large, il se traite sur des valorisations un peu plus regardables depuis la fin de la politique monétaire accommodante. Et en ce qui concerne Capgemini, on n'échappe pas à la règle, hein. On se traite à un peu moins de 17 fois les résultats estimés 2024, plutôt en ligne avec l'historique, alors même que le profil du groupe s'est bien amélioré ces dernières années. Et pour finir, je préciserai que sur la côte française, on est plutôt gâté avec des entreprises de services numériques de très belle qualité dans le segment des petites et moyennes capitalisations. Mais c'est vrai que Capgemini, c'est quand même la seule entreprise de services numériques française qui se hisse dans le top 10 mondial, tout en restant éligible au PEA.
Merci beaucoup, Christophe Pradillon, analyste et gérant de portefeuille à la financière Tiepolo. On marque une courte pause. Juste après, on parlera de l'éducation financière des enfants. Qu'est-ce qu'il faut leur apprendre? À partir de quel âge? On en parle avec notre coach qui nous a rejoint en plateau, Caroline Ménager. À tout de suite.
Tout pour investir, le coach.
Et notre coach aujourd'hui, Caroline Ménager, cofondatrice de Pixpay. Bonjour Caroline.
Bonjour.
On va parler de l'éducation financière des enfants. Vous dites que c'est quelque chose d'important, il ne faut vraiment pas éviter le sujet.
Exactement. Alors déjà, en tant qu'adulte, il y a beaucoup de parents qui se disent, de parents d'adultes, qui se disent que l'éducation financière, ça ne leur parle pas, ils ne savent pas comment gérer le sujet. Et donc ça leur paraît d'autant plus compliqué de se dire, mais qu'est-ce que je vais apprendre à mon ado? Moi, on ne m'a rien appris, comment je vais faire? Et pour autant, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que quand on interroge la génération Z, donc nos ados, pour faire court.
Gen Z.
La Gen Z, seuls 6% d'entre eux considèrent qu'ils ont des compétences financières suffisantes. Donc effectivement, il y a de grosses lacunes et ces grosses lacunes, elles vont avoir des répercussions concrètes et vraiment concrètes à l'âge adulte. Par exemple, quelqu'un qui a un niveau d'éducation financière faible, il va perdre en moyenne 2390 euros par an par rapport à quelqu'un qui a des compétences financières moyennes. Et puis ça a aussi des répercussions en termes d'inégalité sociale.
Ouais.
Et d'inégalité de genre. Alors, inégalité sociale, évidemment, quand on n'a pas été éduqué, quand on vient d'un milieu plus modeste où l'éducation à l'argent n'a pas été faite, bah effectivement, on va reproduire
les mêmes erreurs.
Les mêmes erreurs, et c'est dommage. Et en plus, on va voir après. Il y a des choses faciles pour lutter contre ça. Et inégalité de genre, on voit qu'aujourd'hui, les femmes, elles sont globalement moins à l'aise avec les sujets financiers. Un petit exemple. 41% des femmes sont à l'aise pour négocier leur salaire avec leur boss. C'est 58% des hommes. Donc, il faut pouvoir rétablir un petit peu l'équilibre.
Alors, ceux qui sont opposés à l'éducation financière donnent toujours deux exemples. Ils nous parlent de l'éducation financière des femmes telle qu'on le faisait dans les années 50 ou 60. On leur apprenait à être une bonne ménagère et à tenir un budget. Ça, c'est un excès. L'autre excès, c'est ce qui se passe aux États-Unis où on envoie les enfants faire des stages quand ils ont 7 ou 8 ans pour devenir trader ou directeur général de multinationales. Après tout, c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter pour leur avenir. Vous vous dites non, ce sont des notions assez simples et surtout, il faut vraiment les apprendre lorsqu'on est jeune.
Exactement. De toute façon, il y a une réalité, c'est que les adolescents, dans la très grande majorité d'entre eux, ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent de poche. Donc, on peut pas dire, non, mais je veux pas leur apprendre à gérer leur argent parce qu'ils en ont. Donc, il faut pouvoir se mettre sur le sujet. Mais encore une fois, comme vous le dites, c'est pas un sujet de devenir un trader demain. Et c'est pas un gros mot.
C'est pas un gros mot, sur ce plateau, devenir trader.
Non, mais c'est pas forcément le graal de tous les parents. Et je dis pas du tout que c'est un gros mot, mais en tout cas, je veux pas que les gens qui se considèrent pas comme des futurs traders se disent, ah bah, c'est pas pour moi, je vais pas le faire.
Ouais. Et donc, l'éducation. C'est une forme d'excès, évidemment, qu'on met toujours en avant lorsqu'on est des détracteurs de l'éducation financière des enfants.
Alors que c'est de bonne guerre. Mais pour autant, moi, je pense que ça a vraiment un impact positif sur tout à chacun et quelles que soient ses ambitions. Et effectivement, l'éducation financière, c'est pas si sorcier que ça, en fait.
Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas quand même le risque de rendre le sujet un peu anxiogène en comparant la richesse ou pas d'ailleurs de sa famille par rapport à une autre famille ou en étant obsédé par le besoin d'épargner?
Alors, moi je pense qu'il y a au contraire des façons de rendre cet argent pas anxiogène. Et la première chose en fait qui peut générer de l'anxiété chez les enfants, c'est de pas en parler. C'est d'en faire un tabou. Alors je pense que ce tabou autour de l'argent, globalement, il est quand même vraiment, on n'est plus dans les années 50, 60, il a significativement diminué. On arrive à parler d'argent au sein de la famille, même si dans l'essentiel les enfants vont pas connaître le salaire de leurs parents. C'est pas grave, c'est pas le sujet. Mais on parle de plus en plus d'argent. Ça c'est sûr. Et donc moi je recommande vraiment aux parents d'en parler avec leurs ados. Et évidemment, il y a des familles, et les enfants sont pas dupes. Ils sont bien conscients que leurs parents ont plus ou moins de budget que les parents de leurs petits copains. Ça, c'est certain. Mais je pense que même si le parent qui a des difficultés financières, je lui recommande de pas aller s'épancher auprès de ses enfants sur la difficulté à boucler les fins de mois. Ça, je pense que ça peut vraiment créer de l'anxiété. Mais c'est important de pouvoir le reconnaître, de dire, bah, effectivement, on a peut-être moins de moyens que d'autres familles, mais on est capable de faire d'autres choses.
Exactement. D'autres choix, ouais. Point intéressant, vous dites, il ne faut pas faire de l'argent une contrepartie des bonnes notes à l'école. C'est pourtant quelque chose d'extrêmement courant. Je vais me faire l'avocat du diable, mais est-ce que c'est pas une bonne idée de faire le lien entre le travail et donc la réussite scolaire et l'argent? Je vais pas vous faire du Sarkozy, gagner plus, travailler plus pour gagner plus, mais il y a une idée en fait d'établir un lien entre travail et argent.
Alors, je comprends tout à fait. On a bossé avec plusieurs psychologues qui nous ont vraiment mis très en avant ce point de pas faire un lien entre argent et réussite scolaire. Alors, ce qui paraît évident, c'est effectivement plutôt pour les enfants qui vont être en difficulté scolaire liée l'atteinte d'une bonne note à de l'argent en plus. S'ils n'y arrivent pas, ça peut pour le coup générer énormément de frustration. Et donc ça, je pense que c'est vraiment pas une bonne chose à faire.
Donc on peut le faire si l'enfant réussit. Parce que là, c'est une récompense pour un travail. En revanche, si l'enfant a des difficultés, il ne faut pas le sanctionner. C'est ça, en fait.
Alors, s'il a des difficultés, il ne faut pas le sanctionner. S'il réussit, moi, ce que je recommande en échange avec des psychologues, c'est pas forcément de mettre à chaque fois la carotte de l'argent. C'est plutôt, éventuellement, de projeter ça dans un projet, dans une envie de l'adolescent, et de l'aider à réaliser un projet. J'ai envie d'acheter telle chose, d'aller faire tel week-end avec des copains, et de mettre la petite carotte, mais pas forcément financière. Après, ce qui est sûr, c'est que récompenser à la fin de l'année, un brevet, un bon bulletin, une bonne année scolaire, c'est des rites de passage qui sont intéressants et que je trouve tout à fait positifs.
Très concrètement, comment est-ce qu'on aborde le sujet avec les enfants? Surtout, à partir de quel âge est-ce qu'on peut parler d'argent? Et en gros, dans les grandes tranches d'âge, qu'est-ce qu'on apprend aux enfants?
Alors, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, on peut parler d'argent à son enfant très tôt et dès la maternelle.
Très tôt, c'est-à-dire
4-5 ans. En fait, à partir de 4-5 ans, un enfant va avoir la capacité cognitive d'épargner et de dépenser. Alors, à cet âge-là, c'est très simple. Et il faut qu'ils comprennent que, un, on ne peut pas tout acheter. Et ça va être les premières notions de limite. Il va aussi comprendre que l'argent, bah, ça se gagne. Et ça permet d'acheter des choses, pas tout, mais ça permet d'acheter des choses. Donc voilà, on va dire à 4-5 ans, maternelle, c'est vraiment des notions très basiques.
En gros, c'est tout ce que les banques centrales nous disent pas. Elles nous font croire qu'il y a de l'argent magique.
Exactement. Donc voilà, on va prendre les principes de base dès le plus jeune âge.
Ouais, donc ça, c'est quand l'enfant est à la maternelle.
Oui.
Ensuite, à partir de quel âge est-ce qu'on peut faire payer les courses par un enfant? Je veux dire, je ne sais pas, acheter une baguette de pain, lui donner la pièce qui va permettre de l'acheter, faire une transaction.
Alors, la première transaction, en moyenne, elle a lieu à 9 ans. Donc vraiment, on est en plein dans la primaire. Elle est souvent accompagnée du parent qui va être à côté. Mais voilà, la primaire, c'est vraiment le moment où l'enfant va pouvoir commencer ses débuts d'autonomie, aller, je pense que la boulangerie, c'est un petit peu l'archétype de la première dépense que va faire un jeune enfant. Donc voilà, donc primaire, c'est je vais faire des premiers achats, je vais manipuler de la monnaie, et il y a souvent la dent qui tombe, la petite souris.
Ouais.
Et donc, qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Souvent une pièce, 1 euro, 2 euros.
C'est horrible, cette histoire. On est en train de, on va apprendre aux enfants qu'on peut vendre un organe et avoir de l'argent. Vous trouvez que c'est une bonne idée de donner de l'argent en échange d'une dent de lait ?
Ah, moi, je trouve que c'est un rite, et donc je suis quand même assez favorable à la perpétuation des rites. Je pense que ça... Et c'est souvent, en fait, surtout la première pièce que l'enfant va avoir dans sa vie. Donc moi, je la trouve intéressante. Et ce qui est marrant, c'est que dès cet âge-là, en fait, on va voir des comportements émerger, des différences de comportements. Il y a les enfants qui vont aller vouloir avoir leur tirelire, mettre leur pièce dans la tirelire, épargner. Et puis ceux qui vont plutôt aller acheter le petit paquet de bonbons parce que ça leur fait plaisir.
À partir de quel âge c'est une bonne idée d'offrir de l'argent à un enfant pour son anniversaire plutôt qu'un cadeau?
Très clairement, c'est plutôt à partir du collège, vers 11-12 ans. Et c'est à la fois une bonne idée, ça va commencer à être une demande des jeunes qui vont plutôt préférer des cadeaux en argent que des cadeaux physiques.
On dit souvent ça leur permet de choisir, mais ça leur permet aussi d'épargner s'ils le souhaitent.
Exactement. Et donc, c'est un bon moment aussi pour les confronter à ce choix de l'épargne versus la dépense.
Allez, il nous reste peu de temps, mais il y a une question très importante, l'argent de poche.
Oui.
Comment est-ce qu'on le gère?
Alors, l'argent de poche, comment on le gère? La première chose, c'est que généralement, moi, ce que je recommande, c'est de donner de l'argent de poche à l'entrée au collège pour accompagner vraiment l'autonomie de l'adolescent qui va pouvoir commencer à faire ses propres choix, à se détacher un petit peu de la prédominance de ses parents et se dire qu'est-ce que j'ai envie d'acheter, comment j'ai envie de le dépenser. Au 6e, 5e, moi je recommande vraiment de le donner toutes les semaines, c'est plus simple, gérer un budget au mois c'est compliqué. À partir de la 4e, si on sent que l'ado a suffisamment de maturité, on peut passer sur un budget au mois. Ce qui est très clair en revanche, c'est que donner de l'argent de poche régulier, c'est vraiment comme ça qu'on va faire de l'apprentissage à la gestion d'un budget. Si on veut faire un cadeau, on donne de l'argent de poche, de l'argent ponctuellement. Mais l'argent de poche régulier, on va dire, c'est un peu le sacro-saint de l'éducation financière.
Un dernier mot très vite, il nous reste peu de temps, mais chez PixPay, qu'est-ce que vous faites et comment vous aidez justement à gérer cet argent de poche?
Alors, chez PixPay, on propose en fait une carte de paiement pour les ados copilotée par deux applications. Une application pour l'adolescent et une application pour son parent. Et en fait, l'adolescent, il va pouvoir, grâce à son application, apprendre à gérer son budget. Il y a plein de fonctionnalités pour apprendre à mettre de côté facilement, pour se faire payer des petits boulots, faire un babysitting.
Donc c'est une façon d'apprendre les services bancaires en fait quand on est adolescent.
Exactement, mais de les apprendre par la pratique, et on se rend compte qu'on ne retient jamais mieux que quand on apprend très concrètement et dans les faits comment gérer son argent.
Merci beaucoup Caroline Ménager pour tous vos conseils, cofondatrice de PixPay. Dans un instant à suivre, le journal de Léo Dumas. Tout à l'heure dans la place de Limo, on parlera de la loi Lemoine. Elle a été votée il y a 2 ans, elle devait permettre de faire baisser les prix de l'assurance emprunteur. Est-ce que ça a été le cas? Très concrètement, on en parlera avec Jérôme Robin, c'est un courtier en assurance.
Tout pour investir sur BFM Business.